et merci d'avoir choisi Europe 1. Il est midi.
Mon compte, ben grossissait. Je demandais à ce qu'ils me virent 30 000. La société a plié bagages en m'annonçant qu'ils avaient tout perdu.
Comme cet épargnant, vous avez peut-être été victime d'une escroquerie financière. L'autorité des marchés financiers la chiffre à au moins 1 milliard d'euros en 2 ans. Témoignage et explication Pierre dès le début de ce journal.
Doit-on s'inquiéter ? EDF annonce que 6 réacteurs nucléaires actuellement en marche souffrent de problèmes de fabrication. Explication à suivre. En exclusivité pour Europe 1, le patron de Total estime que ce n'est pas à lui de pallier la hausse des prix de l'essence.
La marge Total, comme vous le savez, est faible. J'ai entendu l'appel. Nous, on va regarder simplement la petite part du prix de l'essence qui ne revient pour faire en sorte que tout ça se passe au mieux.
Nous entendrons tout à l'heure Patrick Pouyanet. Info Europe 1, Emmanuel Macron donne son feu vert à la fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Qu'en pensent les élus des deux départements ? Dans ce journal également, la qualité de l'air dans les salles de classe, qui n'a pas rêvé de 100% d'air pur pour ses enfants. Un pompier volontaire de 21 ans porté en héros devant une situation financière inextricable. Nous verrons cela. Le foot avec le PSG ce soir en Ligue des Champions face au Real Madrid. Hier, déception pour les clubs français. Un peu pour Lyon, beaucoup pour Lille.
Très difficile de retirer du positif. Sur un plan défensif, on a été tendre, très tendre. Et c'est là la différence qu'il y a entre notre championnat et le niveau de la Champions League.
C'est mercredi, c'est cinéma. Mathieu Charrier nous propose Nicole Kidman ou Brad Pitt. C'est au choix. La tendance météo, Céline Dacosta, encore beaucoup de soleil.
Oui, il est de retour sur la moitié nord avec du vent qui fait baisser les températures. Plus chaud pour la moitié sud, en 27 à 31 degrés, mais avec un ciel plus nuageux pour le sud-ouest. On attend même des orages en fin de journée. Merci Céline Dacosta. On vous retrouve à midi et demi. Météo complète sur Europe 1.
Europe 1.
Ce sont donc, Pierre, des sommes colossales que d'honnêtes épargnants ont perdues à cause de l'efficacité d'escrocs.
Oui, en 2 ans, 1 milliard d'euros de pertes des sites internet extrêmement bien faits, il faut bien l'avouer, vous proposant soit de l'immobilier, soit des placements agricoles, des vignobles, le tout avec d'importants rendements. À l'heure où les placements sont quasi inexistants, il faut le dire, dans les banques, ça peut paraître alléchant. Les principales victimes sont des retraités, comme Alain, 69 ans, qui s'est laissé berner par de la crypto-monnaie.
Avec un premier virement de 9 200. Et puis ça montait pour arriver à 9 virements pour une somme environ 139 000. Et puis mon compte ben grossissait, tout allait pour le mieux, quoi. Le premier mois, j'ai effectué un retrait de 3 000 seulement. Les 3 000 sont arrivés dans les 5-6 jours. Bon, je me suis dit, ça a l'air de fonctionner. Je demandais à ce qu'ils me virent 30 000. Mais c'est avéré que la société a plié bagage en m'annonçant qu'ils avaient tout perdu. Une semaine après, le téléphone. Et puis là, c'était quelqu'un qui me proposait de me faire recouvrir mes fonds contre 35 000. Ils essayaient encore de me sécher complètement, quoi. Ils avaient un discours parfaitement rodé. Je n'avais pas ni les connaissances, ni le pouvoir de rechercher une quelconque malhonnêteté.
Voilà, ce témoignage effarant recueilli par Johanna Chabas. Rémi Hetz, le procureur de Paris, alerte sur l'excellente organisation de ces escrocs. Vigilance donc, et c'est la raison pour laquelle à la fois le parquet de Paris, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et celle de la banque assurance appellent à la plus grande vigilance.
Bonjour Claire Castonnet.
Oui, bonjour Raphaël,
merci.
Bonjour Pierre.
Merci d'être bonjour. Avec nous. Vous êtes la directrice des relations avec les épargnants à l'autorité des marchés financiers, justement. 1 milliard d'euros en 2 ans, hein, c'est le chiffre qu'on a donné. Comment est-ce que les Français peuvent aussi facilement se laisser berner ?
Il faut tout d'abord avoir en tête que c'est un véritable fléau et qu'aucun âge n'est épargné, aucune CSP n'est à l'abri et aucune région non plus. Ça prend la forme en fait de propositions de placement très alléchantes dans des produits financiers ou des biens réels qui vous offriraient un rendement supérieur aux produits traditionnels. Et ces produits sont présentés comme nouveaux, attractifs, avec une quasi-garantie de gagner de l'argent, mais il faut savoir que les sommes ne sont jamais investies et c'est ainsi que l'on arrive à des pertes considérables avec des escrocs qui ont un mode opératoire à la fois digital parce qu'ils s'appuient sur l'Internet et en même temps humain parce qu'ils s'appuient sur le téléphone.
Et c'est tentaculaire parce qu'une fois que l'escroc a vos coordonnées, il vous poursuit, hein, c'est ça, et ça se multiplie sous plusieurs formes.
Tout à fait. Il vous attire par Internet, il vous hameçonne par un formulaire où il collecte votre numéro de téléphone. Et là, c'est le piège, puisqu'au départ, vous avez une relation plutôt bienveillante de mise en confiance, et puis elle devient insistante, elle devient harcelante, elle devient même menaçante pour vous extirper un maximum d'argent toutes vos économies et disparaître une fois que c'est fait.
Est-ce que ça signifie, Claire Castenet, qu'aujourd'hui, il faut vérifier certaines choses avant d'aller placer son argent ? Est-ce que vous avez des conseils d'évidence à donner ?
La première chose, c'est vraiment être convaincu que les placements miracles n'existent pas. Mmh. Ça, c'est un premier rempart. La deuxième chose est de ne pas répondre aux sollicitations de personnes qu'on ne connaît pas et ne jamais donner ses coordonnées téléphoniques ou ses coordonnées bancaires ou son numéro de carte bleue. Vous pouvez aussi vérifier la liste blanche pour les investissements en biens réels, hein, comme le vin, le cheptel, etc., la liste blanche de l'AMF et les listes noires des sites non autorisés. Tout cela est sur le site de l'AMF. Et en cas de doute, prudence absolue, et puis appelez notre centre de relations avec les épargnants, AMF Épargne Info Service, au 01 53 45 62 00.
On retrouvera ce numéro sur notre site internet, parce que là vous êtes allé un peu vite. Vous le donnerez hors antenne et on le mettra sur notre site.
C'est très bien et très très utile. Et le dernier point, peut-être, s'il est trop tard malheureusement, il faut porter plainte. Alors, et pour donner tous les moyens à la justice d'agir, il faut vraiment apporter des éléments factuels.
Vous dites s'il est trop tard, ça veut dire qu'à aucun moment on ne va pouvoir récupérer l'argent ?
Non, l'argent est perdu, sauf très très rare exception, mais il faut bien se dire qu'une fois qu'on est tombé dans le piège, on a perdu son argent.
Eh bien, merci de vos explications. Claire Castenet, directrice des relations avec les épargnants à l'AMF, l'autorité des marchés financiers.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 6, la suite de votre journal. Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin.
Et décidément, autre sujet, Pierre, qui touche aussi à notre portefeuille, c'est celui de l'essence. On le sait, elle va augmenter dans les prochains jours. 4, 5 centimes.
Oui, et nous vous le disions en exclusivité, dès 13h hier, l'UFC Que Choisir lance une pétition pour que le gouvernement supprime la taxe sur la taxe environnementale incorporée dans le prix du litre d'essence. La représente entre 12 et 14 centimes.
Et alors que le gouvernement a encouragé les pétroliers à faire un effort, eh bien, c'est l'inverse que demande ce matin le patron de Total, écouté sur Europe 1. En exclusivité, Patrick Pouyanné.
Les taxes sont élevées, on le sait. Dans le prix à l'essence, vous savez, à la pompe, sur 1,50€, il y a 40 centimes de pétrole, après il y a les taxes. Je me suis plusieurs fois prononcé sur l'idée qu'il fallait peut-être avoir une taxe flottante. Je pense que quelque part, lier une partie des taxes au prix du pétrole est un moyen amortisseur. La marge totale, comme vous le savez, est faible, elle est de 1 centime par litre. On est bien conscient de tout cela. Sachez que chaque matin, je veille à ce que sur mon bureau, il y a un papier qui montre bien le lien entre le prix à la pompe et le prix du pétrole. Donc j'ai entendu l'appel. Je pense que ces marchés vont se calmer. Donc nous, on va regarder simplement la petite part du prix de l'essence qui nous revient pour faire en sorte que tout ça se passe au mieux.
Le PDG Total, Patrick Pouyanné, en exclusivité ce matin sur Europe 1. L'énergie encore avec cette mise en garde d'EDF. L'électricien nous informe ce matin que 6 réacteurs nucléaires en activité sont concernés par des problèmes de fabrication. Que se passe-t-il et faut-il s'inquiéter, Maud Descamps ?
Eh bien, écoutez, l'autorité de sûreté nucléaire est en train de plancher sur cette question. Ses agents sont d'ailleurs en ce moment même dans l'usine où les pièces incriminées ont été fabriquées en Saône-et-Loire. Une usine de Framatome, filiale d'EDF. Ce que l'on sait, c'est que Framatome n'a pas respecté les procédures pour fabriquer les soudures de générateurs de vapeur. Ces générateurs sont ensuite installés dans le réacteur nucléaire. Au total, il y en a 16 concernés, 16 en activité, soit 8% des générateurs en service qui présentent un défaut. Il y a aussi des pièces qui étaient destinées à l'EPR de Flamanville. Et ce qui interroge aujourd'hui, c'est que ce problème de fabrication n'a été constaté que cet été par Framatome, alors que les pièces ont été fabriquées à partir de 2007, il y a donc 12 ans. Il n'y a donc pas eu de contrôle sur ces pièces à la sortie de l'usine. EDF a annoncé ce matin qu'il n'était pas nécessaire d'arrêter les réacteurs, en tout cas pas dans l'immédiat. Maintenant, c'est à l'autorité de sûreté nucléaire d'enquêter. L'ASN qui devrait se prononcer sur les mesures à prendre dans les prochaines semaines. Et si une fermeture des réacteurs était décidée, cela mettrait évidemment EDF en grande difficulté pour répondre à la demande en électricité cet hiver.
Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Une prévision d'Airbus. L'avionneur estime que la flotte mondiale d'avions de ligne va plus que doubler au cours des 20 prochaines années, en cause la croissance annuelle du trafic aérien qui elle-même a plus que doublé depuis l'an 2000. Selon Airbus, les compagnies du monde entier auraient un besoin de plus de 39 000 avions et cargos d'ici 2038.
Europe 1, il est midi 9.
Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, décidément, ça commence mal pour les clubs français en Ligue des Champions. A tout de suite.
À la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Eh oui, on parle football, Ligue des Champions bien sûr. On a eu beau se délecter avec l'hymne composé par Tony Britten que vous entendez. C'est pas ça qui a vraiment aidé les clubs français.
Il n'y a qu'à voir le résultat. 3-0, la claque pour Lille face à l'Ajax d'Amsterdam. Le nul un partout entre Lyon et le Zénith Saint-Pétersbourg. Jean-François Pérez, ça commence très mal pour les clubs français.
C'est clairement raté hein, pour Lille surtout. Donc hein, balayé Amsterdam 3-0 par l'Ajax. Mais pas de quoi rougir néanmoins. L'Ajax reste sur une demi-finale en Ligue des Champions. Le club néerlandais possède une culture du haut niveau dont les Lillois manquent cruellement. Ils n'ont pas fait un mauvais match, les joueurs de Christophe Galtier. Ils ont même eu des occasions de marquer, mais en face, ils ont buté sur un excellent gardien et ils ont craqué face au talent offensif de l'Ajax. Tout n'est pas perdu, mais il faudra réagir dans deux semaines au stade Pierre Mauroy face à Chelsea, qui a également perdu hier soir. Quant à Lyon, c'est presque plus décevant encore. Les Lyonnais jouaient à domicile contre une équipe, le Zénith Saint-Pétersbourg, qui, scoop, ne gagnera pas la Ligue des Champions. Très empruntés, ils n'ont pu faire mieux qu'un partout. L'aura de Juninho, ancien sauveur et nouvel homme fort du club, n'a pas encore pâli, mais il faudra faire beaucoup mieux à Leipzig dans deux semaines.
Ce soir, évidemment, du coup, on mise tout sur le PSG. Paris qui joue face au grand Real Madrid de Zidane. Mais le voilà privé de son trio offensif, Neymar, Mbappé, Cavani.
Eh oui, Cavani et Mbappé sont blessés. Neymar est suspendu. Pas de MCN, comme on dit, à la pointe de l'attaque parisienne. Heureusement, le PSG est un club qui a de la ressource, à tous les sens du terme. Et pour les remplacer, voici Mauro Icardi, star glamour et un brin sulfureuse du championnat italien, débarqué il y a deux semaines, plus sept autres joueurs, principalement des milieux de terrain, chargés de rééquilibrer une équipe dont se méfie forcément la légende du foot français et entraîneur du Real. J'ai nommé
Zinedine Zidane.
C'est une équipe qui est performante, c'est une équipe qui le montre de toute façon chaque week-end, son premier en championnat. Et puis là, c'est une nouvelle compétition qui commence pour eux. Donc, même s'ils ont des joueurs aussi absents, parce que forcément qu'avec Cavani, Mbappé et Neymar, ils sont meilleurs. Mais c'est une équipe qui est de toute façon très performante. Même ça, les trois.
Voilà, d'un mot, le PSG a peut-être un bon coup à jouer. Ce soir, le Real n'est guère flamboyant depuis quelques mois. Lui aussi compte de nombreux absents. Mais attention tout de même à Benzema qui brille, lui. Et à une ancienne gloire de notre championnat, le Belge Eden Hazard, qui devrait faire ce soir ses grands débuts comme titulaire sous le maillot du Real. On le vivra en direct.
Mais il y a une cantatrice ce soir, c'est ça ?
Absolument. Qui viendra chanter a cappella dans notre beau studio Pierre Belmar, l'hymne de la Ligue des Champions.
Vas-y.
Ils sont les champions. Voilà, ça sera différent.
Bravo, Jean-François Pérez, chef du service des sports.
Faut pas me pousser avec ce genre.
Et voilà, et ténor ou soprano, comme on veut. Soirée spéciale en tout cas.
Des
20h en direct et en intégral. C'est au studio Belmar à Europe 1, coup d'envoi à 21h.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 14, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et on prend tout de suite la direction du Pas-de-Calais, Pierre, pour raconter l'histoire de ce jeune pompier volontaire qui se retrouve face à un mur.
Oui, c'est le cas de le dire, puisqu'il a été porté en héros lorsqu'en janvier 2018, il tente de sauver deux de ses camarades dans un terrible incendie à Estrée-Blanche. Bilan 5 morts, dont 2 pompiers. Il est aujourd'hui en arrêt maladie. Et en plus de tout ça, Lionel Gougelot est au cœur d'une histoire totalement ubuesque, avec à la clé une situation financière imprévue.
Ouais, effectivement, parce que la compagnie d'assurance des pompiers du Pas-de-Calais lui réclame 9000 euros pour des soins qu'il a reçus l'an dernier, parce qu'elle estime que le jeune pompier volontaire a bénéficié d'un arrêt de travail abusif. En fait, Aurélien est victime d'une espèce d'imbroglio administratif, hein, parce que après plusieurs opérations, il pensait pouvoir reprendre son activité professionnelle, mais finalement il a dû subir de nouvelles interventions chirurgicales, notamment des greffes de peau, que l'assurance donc ne veut pas prendre en charge. Aujourd'hui, eh bien, vous l'imaginez, il se sent trahi, son geste héroïque dans l'incendie. Quand il a tenté au péril de sa vie de sauver ses deux collègues, eh bien, il a l'impression que tout le monde l'a oublié parce qu'on lui demande de payer la facture.
Quand ça s'est passé l'accident, tout le monde était avec moi. J'avais été reçu à l'Élysée par le président qui recevait les héros du quotidien. Ensuite, j'ai été reçu par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, pour me remettre une médaille. Et là, maintenant, bon, bah, plus personne n'est avec moi, ben au contraire, quoi. Je suis oublié. Pour moi, je suis juste un numéro.
Qu'est-ce que vous demandez maintenant, Aurélien ?
Qu'on me laisse tranquille. Là, j'ai eu une dure épreuve durant ma vie, donc là, je voudrais qu'on arrête de me dire que je dois de l'argent et qu'on me laisse tranquille, quoi.
Alors, il paraît que le SDIS du Pas-de-Calais, hein, c'est-à-dire le service départemental des pompiers, serait prêt à faire un petit geste financier pour aider Aurélien. L'assurance lui propose un paiement échelonné, mais Aurélien refuse de rembourser ses 9 000 euros. qu'il considère tout simplement ne pas avoir volé.
Merci Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 en direct des Hauts-de-France.
Et demain, notez-le, nous serons en émission spéciale à partir de midi jusqu'à 14h en direct du Congrès national des pompiers. La France Bouge se déplacera à Vannes.
En Australie, un randonneur a réussi à ramper 2 jours durant à travers la forêt et les broussailles avec une jambe cassée en deux. L'homme de 54 ans a fait une chute de 6 mètres du haut d'une cascade. Son téléphone ne marchait plus car il était tombé à l'eau. Il a fini par être localisé par un hélicoptère.
Europe 1, il est midi 16, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Avec un conseil des ministres ce matin, information Europe 1, l'immigration a été rajoutée au programme de ce conseil, Pierre, et notamment la question de l'AME, l'aide médicale d'État apportée aux migrants, qui fait débat.
Oui, et on y reviendra tout à l'heure dans le journal de 13h. Autre info Europe 1 de Michaël Darman, le président a discrètement donné son feu vert au printemps dernier pour la fusion de 2 départements, en l'occurrence les Hauts-de-Seine et les Yvelines. L'idée, c'est d'optimiser les 800 millions d'euros de capacité d'investissement. Mais évidemment, on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas un calcul politique derrière tout cela. Il y a 25 députés LREM dans les 2 départements.
Alors, qu'en pensent justement les élus ? Le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Romantin, affirme que les mairies n'ont pas été consultées et il craint surtout, vous allez l'entendre, un trop-plein de confusion.
Moi, je crains, vous voyez, que cette fusion crée une nouvelle couche extrêmement éloignée de la vie quotidienne des gens et vienne du coup s'entrechoquer avec la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France et de créer 3 dinosaures qui vont se disputer des compétences et créer un rapport de force. Donc, je vois pas bien le sens. Moi, je pose la question, pourquoi ? À quoi ça sert ? Et si tant est qu'on soit sur des paramètres politiciens, alors je m'inquiète encore plus de la manière dont les collectivités locales peuvent être instrumentalisées à des fins politiciennes. Alors que notre président se prétend du nouveau monde, qui est plutôt celui où on rationalise, où on va vers l'efficacité, construit des schémas territoriaux dans le but d'améliorer sa percée politique, alors on va à l'encontre de tout ce que, en tous les cas, en ce qui me concerne, je défends.
Le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin, interrogé par Claudia Bertram.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 18.
Europe 1.
Restez avec nous, une nouvelle pause et dans un instant sur Europe 1, comment améliorer la qualité de l'air dans les écoles. A tout de suite.
La suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Ce mercredi, Pierre, c'est la journée de la qualité de l'air. Et ce matin, Europe 1 vous révélait cette expérimentation de purificateurs d'air dans 2 salles de classe du Raincy, près de Paris.
Oui, histoire que nos enfants respirent quand même le meilleur air possible. Virginie Salen, plus généralement, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la qualité de l'air dans les écoles, dans toutes les écoles ?
Alors, c'est un gros enjeu, hein, parce que dans une majorité d'écoles, l'air des classes est encore trop pollué, alors par les gaz de particules qui viennent de l'extérieur, par les émissions toxiques, vous savez, du mobilier ou même des feutres, des marqueurs utilisés en classe, oui, des produits d'entretien, mais aussi par les émissions de CO2 des élèves eux-mêmes quand ils respirent. Résultat, dans beaucoup de classes, le taux de CO2 et de particules donne mal à la tête aux enfants et aux instituts d'ailleurs. Et selon l'ADEME, ça nuit même aux capacités de concentration et donc aux résultats scolaires des élèves.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, Virginie ?
Alors, la solution numéro 1, c'est de limiter les émissions de polluants. Donc, faire le ménage avec des produits sans formaldéhyde ni éther de glycol notamment. Il y a des écolabels pour ça, écolabels européens ou nordiques ou encore l'ange bleu. Il y a aussi des gestes simples en classe, comme par exemple ne jamais laisser de peinture à l'air libre, pas de feutre ni de marqueur ouvert. Et puis, c'est simple aussi, c'est évident, mais il faut le faire, ouvrir les fenêtres le matin et à chaque récréation. Alors, 10 minutes en été quand il n'y a pas de chauffage, 5 minutes en hiver, recommandation de l'ADEME encore. Il y a des classes qui sont équipées de capteurs qui ont une alarme, une lumière rouge, quand le taux de CO2 est dépassé et qu'il faut ouvrir les fenêtres. Et puis, il y a cette expérimentation, ce qu'on sait faire de mieux pour l'instant, une technologie mise au point par Veolia dans 2 écoles du Raincy, que Sabine Fauquez nous explique.
Il y a un caisson qui aspire de l'air extérieur. L'air passe dans un filtre qui retient toutes les petites particules, les poussières, et qui recrache l'air dans la salle et l'air est propre.
Voilà, pour l'instant, c'est un test et ce dispositif coûte autour de 1 000 euros par classe et par an.
Oui, c'est pas rien. Merci Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1. Le gouvernement indien, figurez-vous, annonce l'interdiction des cigarettes électroniques au nom des impératifs sanitaires et la lutte contre les addictions. Je vous rappelle quand même que l'Inde compte 1,3 milliard d'habitants.
Allez, on passe au cinéma, puisque c'est mercredi. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Vous nous conseillez d'abord le Chardonneret de John Crowley avec Nicole Kidman.
Oui, un grand film sur le deuil qui commence par un drame, un attentat au musée métropolitain de New York. Théo, 13 ans, survit, mais sa maman, elle est tuée sur le coup. Alors le jeune homme va tenter de vivre, bien sûr, de trouver une famille d'accueil. Et tout au long de sa vie, il va surtout conserver une relique, un souvenir en quelque sorte du jour du drame. C'est un tableau qu'il a réussi à emporter avec lui, sur lequel est représenté un petit oiseau, un Chardonneret enchaîné à son perchoir.
Avant et après. Tout est avant et après. Entre les deux, il y a le tableau.
Ce tableau qui a une valeur marchande, bien sûr, mais pour Théo, c'est surtout une relique qu'il conserve précieusement. Alors le livre faisait 1296 pages, le film dure 2h30, richement condensé. C'est une grande odyssée, une sorte de thriller initiatique très bien fabriqué, le Chardonneret. Allez-y.
Vous nous conseillez aussi Ad Astra de James Gray, porté dans l'espace par Brad Pitt.
Eh oui, on est dans un futur proche, mais pas daté. La Terre va très mal, la Lune a été colonisée, et on envoie Brad Pitt vers Neptune à la recherche de son père, dont la mission spatiale a échoué, et que l'on soupçonne d'être toujours en vie. On le soupçonne surtout d'être responsable de l'émission d'ondes électromagnétiques qui mettent en danger l'existence humaine.
Je consacre ma vie à l'exploration spatiale. Et c'est à toi que je le dois.
C'est le début d'un grand soap-opéra classique, mais terriblement maîtrisé sur la forme. Et comme on est chez James Gray, vous le disiez, c'est aussi le début d'une quête d'identité pour notre astronaute, inadapté au monde dans lequel il vit et qui part, à travers ses missions, trouver une raison à son existence. Évidemment, sur la forme, le film s'inscrit dans la lignée de 2001, l'Odyssée de l'espace ou de Solaris, mais avec donc la patte James Gray, il y a de l'action, de la réflexion, du sens. Ad Astra et le Chardonneret, 4 étoiles sur 5. Aux deux films.
Ah ouais,
c'est un très bon cru aujourd'hui.
Très bon film. Et puis il y a aussi le Woody Allen.
Il y a le Woody Allen, il y a le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Allez-y, il y a beaucoup de choses à voir.
Merci Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1.
Merci Pierre, on vous retrouve à 13h pour un nouveau journal.